שלום, אנחנו בשיעור בנושא התקפה על החיבור, נקרא מקטעים נבחרים בנושא התקפה על החיבור.
Bonjour, nous sommes dans une leçon ayant pour thème s'attaquer à la connexion. Nous allons lire des extraits. Nous commencerons à l'extrait numéro 19.
לכן, אנחנו כבר משוקעים ברצון לקבל לתורה.
רבש, qu'est-ce que le monde a été créé pour la Torah? L'ordre du travail est que puisque nous sommes nés après le péché de l'arbre de la connaissance, nous sommes déjà immergés dans le désir de recevoir pour notre propre bien, sur lequel il y avait tsimtsum et dissimulation. Pour cette raison, l'ordre de notre travail commence dans la beina l'olishma, c'est-à-dire quand nous commençons à observer la Torah et les mitzvot, nous devons avoir la foi aussi en l'olishma, puisque sans la foi dans l'olishma, nous ne pouvons pas faire notre travail. Partout où le travail est basé sur la foi, c'est un travail dur. Ce n'est que là où la récompense et la punition sont révélées que le travail est appelé dans la date parce que nous voyons immédiatement les résultats. Mais quand la récompense et la punition sont couvertes et que nous devons seulement croire en la récompense et la punition, même l'olishma est un grand effort. Cependant, ce n'est pas si grave parce que ce n'est pas contre la nature du désir de recevoir pour soi. Mais si nous voulons atteindre la dvikut, appelée Be'al Menat Le Hashpia, dans le but du don, le corps commence à résister de toutes ses forces. Et il est impossible de sortir du contrôle du désir de recevoir sans aide d'en haut. Il a été dit à ce sujet, s'il n'y avait pas l'aide du Créateur, l'homme n'y parviendrait pas. Le conseil est la Torah, puisque la lumière qui est en elle corrige l'homme.
איזה הבדל יש באמונה
שהיא על הדיפרנס entre la foi qui est l'olishma pas au nom du créateur et la foi qui est l'ishma au nom du créateur? C'est une question.
איזה יש הבדל
Quelle est la différence entre croire en l'olishma et croire en l'ishma?
Kadima.
Allez-y.
Emuna belishma.
Yachat, yachat, atem timtsot tshuva.
Ensemble, ensemble, vous trouverez une réponse. La foi dans l'ishma, c'est l'atteinte et la foi en l'ishma, c'est plutôt de croire dans les kabbalistes et croire en ce qu'ils nous ont dit. Oui, ça me semble être l'opposé, que la foi dans la l'ishma, c'est la raison, et en l'olishma, c'est au-delà de la raison. Mais je ne sais pas, il faudrait que j'y repense à deux fois. En l'olishma, pas en son nom, la foi est basée sur la récompense, ce qui nous permet d'aller avec la foi. Et dans l'ishma, en son nom, là, il n'y a pas de récompense et on peut vraiment y aller avec la foi. Oui, dans la foi, dans l'olishma, une personne doit sauter sur son ego, piétiner sa fierté et construire une place pour le monde supérieur, même s'il ne le voit pas ou ne le ressent pas. Et dans l'ishma, c'est déjà en train d'activer l'ego. Même si on voit que tout est fait par le Créateur pour y insérer le désir de recevoir, je ne sais pas. L'ishma, on doit avoir le Créateur. En l'olishma, nous essayons toujours de surmonter l'ego, mais il ne peut pas y arriver parce qu'il ne peut pas imaginer une quelconque récompense. Je dirais que cette partie du désir qui est utilisé, c'est ça qui est en question. Car les deux sont afin de donner, mais un est avec le désir de se débarrasser du désir de recevoir, et l'autre c'est avec la grandeur du Créateur. Oui, il faut se débarrasser du désir de recevoir, et de l'autre côté, c'est le désir de recevoir lui-même. Alors, dans quelle mesure il s'objecte à l'attribut de la foi? Oui, dans l'Olishma, tout est dans le désir de recevoir. Mais il y a encore une différence, et je ne sais pas, entre la foi de ce monde et jusqu'à la foi dans un état de l'Ishma. Je ne sais pas s'il faut comprendre la différence d'être dans l'Olishma et de vouloir recevoir une récompense, et ce qui est la différence entre la foi régulière et une qui va nous apporter au don. La foi dans l'Olishma, une personne veut se satisfaire elle-même pour se donner à elle-même. Et dans la foi l'Ishma, une personne veut travailler pour la société, pour les autres, afin d'apporter du contentement au Créateur. Le résultat de la foi, c'est afin de recevoir. Et dans la foi, c'est dans les récipients de dons qu'il n'y a rien de là qui reste. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, demande Rav? Ah, oui, vas-y. Non, ce n'est pas clair pour moi quelle est la différence et qu'est-ce qui n'est pas clair, demande Rav. Dans quel récipient est-ce qu'elles sont et quelle est la force qu'elles utilisent pour être dans ces deux états différents? Une personne, dit Rav, qui va selon la sagesse de la Kabbale et veut en venir apporter du contentement au Créateur, sans aucun intérêt personnel. Pour le moment, il est dans un état où il ne peut pas y arriver. Il essaie, et finalement trouve que il est encore en train de penser à la récompense, et que sa récompense est à lui, et ce n'est pas pour l'amour du Créateur seulement, non. Mais que ça puisse lui profiter, qu'il puisse avoir ce monde et le monde à venir en même temps, quelque chose. Mais en vérité, même s'il le voulait, même s'il voulait travailler pour l'amour du Créateur, il en est toujours incapable. Il y a différents degrés, mais celui-là s'appelle l'Olishma. Où est-ce que c'est écrit que, dans l'introduction à Tass, article 12, s'engager dans les Torah et les Mitzvot, pas pour l'amour du Créateur, veut dire qu'il croit dans le Créateur et dans la Torah, et dans la récompense et la punition, et qu'il s'engage dans la Torah, parce que le Créateur lui a commandé de le faire, mais il s'inclut son propre bénéfice personnel de faire les mitzvot pour lui-même. Oui, à l'encontre de sa volonté, dit Rav. Et ça, c'est ce que nous appelons le lishma. Et lishma, c'est lorsqu'il est prêt à recevoir une illumination d'en haut, qui lui permettra de travailler seulement pour l'amour du Créateur, même si il résiste. Même si il a n'importe quel sentiment qu'il pourrait recevoir quelque chose en retour, et ça le secoue, et ça le choque même, n'importe quoi sauf cela. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il découvre que maintenant, il y a un petit serpent dans toutes ses pensées d'avoir quelque chose pour lui-même. Et dans ce monde et le monde à venir, peu importe, pour lui, c'est une punition terrible.
Et c'est la différence entre l'Olishma et l'Ishma. Et
à part cela, nous ne le regardons même pas comme de travailler pour le Créateur. Il n'y a même pas d'inclination pour travailler pour le Créateur. Il se pourrait que l'homme fasse quelque chose, mais ce n'est pas afin d'apporter du contentement. Ce n'est pas afin d'atteindre un état pour apporter du contentement au Créateur sans aucune pensée pour soi. Non, ce n'est pas dans cette direction. Y a-t-il d'autres questions? Tout est clair? C'est pourquoi il est écrit que tant que nous pensons que c'est bien d'être en lishma, dans le lishma, le lishma est aussi un degré très bien. Oui, du Rabash volume 1, il faut voir que la querelle est préférable à un état de paix. Ici, il n'y a pas de querelle auparavant. Bala Soulam a dit qu'une personne comprend dans la mesure où elle comprend et valorise le travail dans l'Olishma. Il voit que c'est un travail très important, mais il voit que l'Olishma est même plus important que le travail dans l'Olishma parce qu'une personne ne peut même pas évaluer l'importance de la Torah et des mitzvot, même si ce n'était pas pour au nom du Créateur. En raison de la perfection dans le travail de Torah et les mitzvot, ça nous amène à la perfection, à l'ishma. Oui, il faut voir la différence entre les deux, mais je vois que vous êtes encore en train d'hésiter, tu ne crois pas, toi, et tu ne crois pas au Créateur non plus, peut-être. Alors, vas-y. Est-ce que je devrais dire si je crois ou non? Non, non. Mais dans les deux cas, on doit dire qu'une personne est équipée avec l'intention de donner. C'est de vouloir atteindre le don au-dessus de sa nature. Il doit y avoir un don quelconque, pas pour mon propre bénéfice. Mais le fait que tu identifies que ce n'est pas pour moi-même, on l'identifie qu'à la fin. On peut dire que ce n'est pas pour l'amour du Créateur, mais au début de l'action, il doit être équipé avec un désir de donner. Ce n'est pas qu'il veut avoir la récompense. Et non, mais vous trouvez une façon détournée de faire les mitzvot. Non, le début de l'action doit être avec l'intention de donner, pas vrai? Oui, ça doit être toujours, tout le temps, d'atteindre un pur don, d'irav, sans aucune pensée pour soi, mais afin de donner pour le groupe et ensuite au Créateur, de l'homme, de l'amour de l'homme à l'amour du Créateur. Oui, mais lorsqu'une personne fait ça, est-ce que ça dérange si à la fin elle voit qu'il y avait eu un serpent, qu'il n'y en a pas eu, qu'il y a eu une récompense, qu'il n'en avait pas? Comment pourrait-il savoir s'il voulait la récompense ou non? Si l'éveil s'éveille, c'est un signe qu'il ne la voulait pas même. Mais alors, c'est quoi la différence entre l'ishma et l'olishma? Dans l'ishma, il n'y a pas de serpent à la fin. Je vois que tout est pour le don. Je n'ai pas de récompense. Oui, on pourrait dire que c'est une différence parmi tant d'autres. Mais au début de l'action, il n'y a pas de différence, c'est 100% de don dans les deux côtés. Oui, dit Rav, tant qu'une personne le peut, mais elle sait que c'est le chemin où aller. Alors, le résultat où aller, c'est après ça, c'est sur le compte d'une personne ou que veux-tu dire? Ou c'est au détriment d'une personne? C'est ce que tu veux dire? Oui, mais tu dis que ça vient d'en haut, que c'est une partie de son développement. Qu'est-ce qu'elle peut faire à ce sujet? Je ne connais pas tous ces mots, dit Rav. Tout va dans ton compte. C'est ça que tu veux savoir? Oui, ça, tu peux en être certain. C'est tout? Non, mais il semble qu'il n'y a pas de différence suivant ce que nous comprenons ici, qu'il dirait qu'il n'y a pas de différence. Lorsqu'une personne se met à faire le travail, elle doit faire tous les efforts pour être dans le don, pour adhérer au don. Oui, dit Rav. Autrement, ça n'est même pas appelé l'olishma. Tout comme nous l'avons lu, que nous essayons de cette façon, puis de cette façon, et là, il découvre que, contre sa volonté, il le fait pour lui-même néanmoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le but, c'est l'advikut, l'adhésion, oui. Alors, pour atteindre l'advikut, je dois tout faire dans un don pur, oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux rien pour le désir de recevoir, mais au-dessus de mon désir de recevoir. Ça, c'est ce que nous appelons afin de donner. Alors, Mais je ne peux pas faire une telle chose immédiatement, dit Rav. J'en suis incapable. J'aimerais bien, mais j'aimerais y arriver. Et là, je fais des choses qui, en apparence, ont l'air orientées vers le don. Je le fais à travers la société. Ici et là, je vois que c'est encore dans c'est une arrière-pensée. Je me demande qu'est-ce que je vais en retirer dans ce monde, puis dans le monde à venir, à recevoir quelque chose. Même si je m'incline devant les amis, si c'est ça même ma demande, mais à la fin, je découvre que j'ai toujours une pensée à propos de mon propre bénéfice. Mais à l'origine, en apparence, je ne voulais pas penser de cette façon. Et ça, ce sont tous des états et des degrés de l'Ulishma. Et par la suite, la lumière se révèle de plus en plus et de plus en plus, dans de petites portions et de plus en plus, et je commence à ressentir l'importance du Créateur, et ça devient simplement important pour moi tout d'un coup, et de sorte que ce que tu vois maintenant, tout ça, c'est un mensonge. Mais il se pourrait que ce soit important pour toi simplement pour obtenir une récompense. Mais tu ne crois pas en la récompense non plus. Mais par la suite, ce qui se révèle, qu'est-ce qui se révèle?
C'est que je suis l'hérifou. Je veux que ce soit lui qui en profite. Comment? Est-ce que c'est un enfant, un proche? Non.
C'est alors?
Tu veux
profiter pour en obtenir toi quelque chose? Non, non, surtout pas. Je ne veux que lui apporter du profit à lui. Alors, ça semble qu'une personne est devenue folle, que c'est de l'insanité, mais c'est une pensée qui déjà se situe au-dessus du désir de recevoir. Il y a une illumination très spéciale qui neutralise le désir de recevoir et on veut que ce soit lui qui en profite. Alors, c'est très étrange et on se met à le ressentir. Je te garantis que lorsque tu commences à le ressentir, c'est très bizarre. Comment se pourrait-il que... Non, maintenant, je réalise que je n'y avais jamais réfléchi auparavant. Je ne pensais pas au Créateur. Parfois, s'il me semble que je pleurais ou je criais en raison de quelque chose, je n'étais pas heureux ou je voulais de l'aide ou... Non, tout ça, c'était par cœur que je le faisais. Comme si je pensais que les autres le faisaient, alors je le faisais aussi. Mais lorsque la révélation de l'Ishma vient, cette illumination, tu ne veux que lui faire profiter de ton travail. Et là, tu découvres que... Il faut découvrir un autre signe de l'Ishma, de voir que nous ne le voulons pas vraiment. Mais si j'ai la chance de faire en sorte qu'il puisse en profiter et que chacun le sait et il le sait ou s'il ne le sait pas, personne ne le sait, c'est comme si ça devenait très important pour moi. Et de plus, et même moi, je ne dois pas le savoir que je lui fais du bien parce que... En raison de ça, qui sait, je pourrais devenir fier ou je pourrais encore m'attendre à une certaine récompense. Cette pensée qui revient à mon esprit. Et ça, je ne le veux pas. Je me coupe complètement de tout résultat. Et ça, c'est ce que nous appelons l'Ishma. Mais encore une fois, ça vient, et cette force, cette illumination, Et ça me fait réfléchir de cette façon. Comment une personne peut développer une telle importance avec quelque chose qu'il ne ressent même pas, à laquelle il n'a même pas goûté, il ne comprend même pas ce qu'il fait, et tout d'un coup, il y a cette importance qui se développe, quelque chose qu'on ne comprend pas, et d'où est-ce qu'il prend un tel exemple? Il n'y a pas d'exemple, dit Rav. Itaï? Oui, et Shai aussi. En fait, non. En fait, ce sont des exemples. Tout le monde est dans l'Ishma. Regarde seulement à ta table. Il y en a peut-être qu'il y en a déjà deux qui sont dans l'Ishma. Toi, je ne sais pas, mais eux sont dans l'Ishma. Alors, j'en suis désolé, mais il n'a même pas la force d'être jaloux de toi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en penser? Si ça se révélait, hein? Maintenant tu aurais... Non, ça te dérangerait, tu serais inconfortable. Et ça, c'est le seul incitatif, en fait, l'envie. Et on ne peut rien y faire d'autre parce que tout est à l'extérieur de nous. Et tu ne l'utilises pas. Et comment le disons-nous? Qu'il y a quelque chose chez nos amis ou je ne me souviens plus. Oui, plusieurs étincelles de sainteté chez nos amis. Alors, il y avait une autre personne qui voulait poser une question ici. Non, pas toi. J'ai eu ma réponse. Ah, tu veux ta réponse? Parfait. Question de Dennis Sandler. Comment est-ce que le processus de transition de l'olishma à l'ishma, est-ce que nous avons besoin de le désirer? Ce processus, oui, il nous faut désirer l'ishma, dira, même si nous ne savons pas ce que c'est, que nous ne voyons pas comment ça pourrait être, ou quelque chose même d'alléchant, mais les kabbalistes nous disent que il nous faut vraiment comprendre que si nous avons reçu une certaine relation envers tout ça et que nous pouvons émerger de ce niveau de la réalité et ne plus être dans une réalité imaginaire, alors là, nous voyons que cette couche qui apparaît, et nous voyons que tout ça, c'était de l'imagination dans nos nerfs ou notre système nerveux, peu importe, mais nous sommes ensemble avec le groupe de Moscou, nous espérons que tout le monde ira bien et que tout sera pour le mieux. Il y a un ami là qui... qui est dans un très mauvais état de santé. Alors, autre chose, Alexander de Sochi demande, avant l'Ishma, est-ce qu'il y a une certaine période de temps ou tout dépend des efforts d'une personne? Non, il n'y a rien de tel que d'aller à l'école et je n'aime pas ça, alors je passe d'une classe d'un cours à l'autre. Non, 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 c'est... Si tu t'investis dans les efforts et si tu fais suffisamment d'efforts en termes de temps et en termes de qualité aussi. Alors, avec les amis, si tu ne construis pas le schéma, comment est-ce que le schéma pourrait se révéler à toi? Tu as besoin d'un réseau et puis d'un avaya devant toi. Une question de New York, de Kolia. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple que même si je ne le sais pas, tu pourrais nous donner un exemple? Non, tu ne veux pas le savoir, dit Rav. Élève l'importance et cette illumination qui vient d'en haut, ça te donne l'aptitude de penser au Créateur, et comme si c'était la source à partir de laquelle tout vient, et ce n'est que lui qui importe, et il importe tellement qu'il n'y a que lui qui existe et seulement lui importe et à côté de lui, une personne, incluant toi-même, et c'est tout. Ce que tu as dit à Rami maintenant est que les amis sont dans l'Ishma. Et moi, je dois penser que je ne le suis pas, mais y a-t-il des personnes ici qui sont dans l'Ishma? Tout le monde autour de moi est dans l'Ishma? Ça, je ne le sais pas dire. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais dire quand tu l'as dit? Je voulais dire ce que je voulais dire. N'y réfléchis pas plus. Mais moi, je sens que c'est critique, là, d'arriver à une réponse. Peu importe, dit Rav, tant que tu en arrives à une véritable envie, que ça ne te laissera même pas dormir et que jusqu'à ce que ça ne te laisse même pas dormir. Mais comment éveiller cette envie en moi? Ça, je ne sais pas. Parle à tes amis, dit Rav. Ils sont tous des justes dissimulés. Mais jusqu'à ce que ça arrive, rien n'arrivera. Parce que le monde supérieur est dissimulé, c'est un autre niveau de pensée, de perception et d'atteinte. Et personne ne t'en parlera. Les kabbalistes ont écrit que tu vois comment ils ont écrit, que le professeur non plus ne peut pas décrire la situation. C'est impossible de te dépeindre cette réalité et c'est même interdit, c'est impossible. Alors il s'avère que il n'y a que l'envie qui peut te donner la force.
Mais ça s'est fait de cette façon exprès.
Oui, mais disons-le autrement. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois trouver en eux que je ne cherche pas suffisamment, un point en particulier? Il faut que tu lis ce que le Rabash a écrit, dit Rav. Quelle est la bonne façon d'avoir l'envie dans le groupe? Je vais te donner un exemple. Alors, oui, j'enviais beaucoup. Et tu vois, ben, le vendredi, nous avons créé différents cercles et nous avons vu que tout le monde s'élevait au-dessus de sa dizaine. Tu as dit que la personne qui s'élevait au-dessus de sa dizaine, on lui coupait sa tête. Alors, comment... Non, je ne lui coupe pas la tête, je la jette, dit Rav. Alors, comment est-ce que mettre en place cette envie? Parce que de cette envie, il doit y avoir ce jeu, ou comment on peut l'appeler? Non, toi, tu vas le faire et pas moi. Mais alors, comment y arriver correctement? Ça, je ne le sais pas, dit Rav. Tu veux être impressionné de voir que si Itaï et Shai et qui donc il y a là, et disons qu'ils sont déjà dans l'Ishma. Et toi, tu ne me croiras pas. Et ça doit être un jeu, et de se mettre à jouer le jeu, mais il faut voir que il faudrait que tout le monde soit éveillé par ça. C'est vraiment un must, et vous ne le faites pas. Mais comment ranger ça avec la question de l'attribut qu'il faut maintenir la qualité aussi dans la dizaine et entre les dizaines? Comment? Rabash a écrit, il faut que tu sois au-dessus de tous les amis et dessous tous les amis et égal aussi à eux comme des amis. Alors je veux que Rami se mette à brûler de l'intérieur pour qu'il, oui, laisse-le brûler pour qu'il voit à quel point il est brut et que tout le monde l'a et lui ne l'a pas. Alors, comment atteindre cet attribut? S'il aurait cet attribut, alors il sentirait que oui, ça va bien. Alors, tu te moques de moi? Non, je suis très sérieux. Mais relis les articles encore, et tout est écrit. Toi, avec... avec ton attitude intelligente, tu ne seras même pas capable de t'asseoir sur ta chaise, même si tu le voulais. Ça influence chaque personne et il faut jouer le jeu de cette façon. Où il y a... David, t'es un acteur toi aussi, oui. Alors, commence avec quelques personnes et comme si vous aviez déjà ce groupe qui vous étiez déjà au-dessus des nuages d'une certaine façon pour que les autres soient jaloux de vous. Et mettez-vous à organiser, non pas qu'une poignée de personnes, mais que chaque groupe devrait le faire et que les personnes sauront que vous jouez à la comédie, mais ils voudront néanmoins résister à ce jeu. Et c'est comme ça que ça travaille, que ça fonctionne. La partie la plus lourde du désir de recevoir, c'est la récompense. Il faut voir que nous voulons tous la récompense. Et y a-t-il d'autres personnes ici qui... il me semble que je préfère mourir même que de vivre, à tel point que parfois j'ai de la jalousie, mais nous passons à l'extrait numéro 20. Jacob habitait dans le pays où son père avait vécu. Il faut croire que le Créateur a créé le monde dans la bienveillance et que le mal dans son corps l'éloigne de tout le bien. C'est-à-dire, quand il vient pour apprendre la Torah, il la trouve tout à fait sans goût. Et aussi, quand il vient faire une mitzvah, de même, il la trouve totalement sans goût, parce que le mauvais penchant de son corps a le pouvoir de ne pas le laisser croire au Créateur au-dessus de la raison, car il lui a enlevé toutes les saveurs. Chaque fois qu'il commence à s'approcher de quelque chose de spirituel, il sent que tout est sec, sans aucune humidité de vie. Quand la personne commence son travail, on lui dit, et il croit ce qu'on lui dit, que la Torah est une Torah de vie, comme il est écrit, car elle est ta vie et la durée de tes jours, et comme il est écrit, plus désirable que l'or, beaucoup plus désirable que l'or fin, et plus doux que le miel et que le rayon de miel. Mais quand on considère cela et qu'on voit que le mauvais penchant est là à tout condamner et qu'on sent fort le mal qu'il lui cause, alors il ressent sur lui-même ce qui est écrit. Nombreuses sont les afflictions des justes. C'est-à-dire que ce verset a été dit à son sujet. Et c'est là qu'il regarde ce que le verset dit après. Mais le Seigneur le délivre de tous. Ainsi, il commence à crier au Créateur pour qu'il l'aide, parce qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire, sans résultat, et il pense que le verset « Tout ce qui est dans ton pouvoir de faire, fais-le » a été dit pour lui. À ce moment-là, vient le temps du salut, le salut du Créateur, qui le délivre du mauvais penchant, dans la mesure où, à partir de ce jour, le mauvais penchant se rendra devant lui et ne sera pas capable de l'inciter à la transgression. D'accord, je ne sais pas vraiment quoi vous poser comme question ici. Comment est-ce que nous pouvons nous convaincre que nous sommes dans un monde qui est imaginaire, qui est fictif. Et oui, nous sommes habitués à ces mots déjà, mais vraiment, ici, ensemble avec nous, je sens la perception. Et à un autre niveau, un deuxième niveau, il y a la véritable perception où il n'y a pas de corps, mais seulement la force du don qui existe. Et dans la mesure où nous l'atteignons, sans la force de réception, mais dans cette mesure aussi, nous existons dans cette deuxième réalité. Y a-t-il des questions par rapport à ce que nous avons lu ici?
Rav,
est-ce que nous, Bnei Baruch, Nous avons la Torah, ce que nous pouvons l'orienter, ou ce n'est seulement que la Torah qui nous amène vers la bonne direction? Oui, tu l'as dit de la bonne façon, dira Rav, la Torah, cette même force qui vient à nous, qui se soucie de nous et qui nous donne la force du don et nous rapproche et fait en sorte que nous nous adhérons au Créateur. Alors, d'apprendre la Torah, c'est quoi alors? Apprendre la Torah, c'est l'étude de comment atteindre ses forces, la force du don, et qu'est-ce qu'elles font en nous et ce que nous atteignons par elles. Tout ça, c'est ce que nous appelons l'étude de la Torah. Et nous apprenons comment ça arrive et que nous sommes dans ce processus. Mais c'est pour ça que je demande, la Torah, elle est apprise à partir des actions, dit Rav. Et ça, c'est la Torah. Mais la Torah, ce n'est pas une expérience, c'est quelque chose que nous apprenons. Tu apprends, dit Rav, comment te soucier du désir de recevoir afin de lui connecter à lui une intention afin de donner, et par là, tu l'utilises pour adhérer au Créateur. Mais c'est caché dans la Torah. Comment est-ce que je sais que je l'apprends? Que veux-tu dire caché? Mais la Torah, je sais que ce que j'atteins, c'est... Non, ce que tu le lis, et tout ce que tu le fais, c'est pour obtenir la lumière qui corrige, et c'est tout, dit Rav. Et avant que la Torah ne fût écrite, avant, qu'est-ce qu'il y avait vraiment avant qu'elle ne soit écrite? Alors, les gens étaient-ils en vie, oui ou non? Bien sûr qu'ils étaient en vie. Mais à partir d'Adam Richon jusqu'à Moïse, et jusqu'au mont Sinaï, et jusqu'à nous. Mais qu'ont-ils fait? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'une personne écrive la Torah. Pendant 40 ans, il l'a écrite, et puis il est mort. Et alors quoi? Mais ma question alors, c'est à partir d'Adam Richon jusqu'à Moïse, qu'ont-ils appris? La Torah, mais la Torah n'était pas écrite. Elle n'était pas écrite. La lumière qui influence le désir de recevoir de l'homme afin de le corriger et d'être apte pour qu'il puisse donner et donner au Créateur, ça, c'est ce que nous appelons la Torah. Lorsque cette lumière passe à travers une personne, elle se met à s'engager dans les leçons et toutes les saveurs de la Torah. Et ça, c'est déjà un résultat. Et lorsqu'une personne sent ce par quoi elle passe, ça, ce n'est que dans l'Ishma. Et alors, elle ressent que cette lumière vient, qu'il y a une correction. Et qu'est-ce qu'une personne peut faire? Faire ce qu'elle fait? Ça, c'est ce que nous appelons l'étude de la Torah. Et c'est tu devrais écrire sur le parchemin de ton cœur. Merci, Rav. Qu'est-ce que ça veut dire de donner au Créateur, de faire le bien au Créateur? Tout, dit Rav, peu importe. Tu es simplement et constamment, tu te soucies de lui apporter du bien, et c'est tout. Tout le temps. Comment lui apporter du bien? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous de lui apporter du bien? En pense-y, qu'est-ce que tu peux lui donner? Mais c'est ma question, qu'est-ce qu'on peut donner au Créateur? Ce n'est que lorsque nous nous unissons ensemble, que là, dans nos pensées, c'est comme ça que nous lui donnons rien de plus. Le monde spirituel n'est qu'une pensée. Et aussi, cette pensée, ce monde, lorsqu'il disparaît, nous voyons qu'à part une pensée, il n'y a rien qui ne reste. Et il faut voir que ceux qui cherchent l'univers, des astronomes, par exemple, des scientifiques, qui disent que tout l'univers est une pensée. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'ils disaient, mais eux disent que oui, nous ressentons que l'univers est une pensée. Et que ça les influence de s'y engager. Alors une pensée, c'est une place pour la révélation du Créateur, Oui, la pensée, c'est un programme, le programme de la création. Et lorsque nous pénétrons ce programme de la création, nous voyons que d'une extrémité à l'autre, comment tout fonctionne, comment tout est connecté, comment à partir des plus petits détails, jusqu'à la réalité la plus globale, nous sommes dans cette lumière de la divinité et que tout n'est que dans la perfection. Et ça, c'est le plus grand plaisir pour de voir que tout ce programme, tout ce logiciel, tout ce réseau, que nous voyons à quel point il travaille sans limite et sans frontières. Alors, une personne qui donne au Créateur, elle veut découvrir cette plénitude autant que possible. Oui, parce que par là, il lui donne du contentement. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est exigé? Comment est-ce que nous commençons à découvrir cette pensée, cette plénitude? Nous avons une carence, ça s'appelle le point dans le cœur. Et la question, c'est pourquoi sommes-nous en vie? Et cette question existe en chacun, dans différentes mesures, mais ça existe chez tout le monde. Tout le monde se demande pourquoi est-ce que je vis. Alors, je devrais dire, je veux faire profiter le Créateur, et là, je vais vers les amis, et je veux me connecter à leur point dans le cœur. Oui, dit Rav, tu recherches. Tu comprends que pour faire du bien au Créateur, c'est considérer que nous révélons ici toute l'humanité et toutes ses actions, tout le système supérieur. Et lorsque nous le découvrons et que nous en sommes inspirés, à partir de là, tu lui donnes du contentement. Et ça, c'est le plus grand contentement qui puisse être. Et que tu te réjouis de son travail, de son œuvre. Oui, là, je vais être dans l'endroit qu'il a arrangé. C'est un endroit pour lui. Ah, non, non, ne continuons pas dans cette veine. Tu te mets déjà à trop limiter. Oui, Yuri, si tout est dans la pensée, que tout est dans une relation intérieure, comment est-ce qu'une personne peut agir et voir qu'elle est dans l'Ishma? Comment est-ce que, en l'Ishma, dit Rav? Oui, tu as dit plutôt que nous devons agir vers les amis comme si nous étions dans l'Ishma. Alors maintenant, ma clarification, il semble que d'être dans l'Ishma, tout le travail, c'est dans la révélation, dans la pensée. Non, ce que je dis Rav, c'est qu'il nous faut jouer comme si c'était une pièce de théâtre. Mais alors, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois jouer si tout ça, c'est à l'intérieur? C'est quoi l'expression extérieure? Il nous faut, et nous avons ce secret, dit Rav, entre nous. Entre nous, il y a un secret. Et les autres n'ont pas besoin de le connaître, mais ils doivent savoir qu'il y a un secret entre nous. Et c'est tout, c'est suffisant.
Ken.
Il y a
plusieurs questions ici sur Internet. On demande, pour créer de l'envie, est-ce que je devrais essayer de dépeindre l'état parfait dans la dizaine? Qu'est-ce que ça veut dire que je m'imagine pour moi-même, dit Rav? Que, la dizaine qui est déjà dans la perfection, au degré plus grand que moi, je ne sais pas ce qu'est la perfection. Je n'aime pas de tels mots. Tu ne peux pas vraiment saisir leur portée. Alors, mais je dois m'imaginer que les gars sont plus grands que moi. Et c'est tout. Je dois avoir peur que demain ils viendront et me diront, tu sais quoi, nous nous excusons, nous avançons, et puis nous avons trouvé quelqu'un d'autre à ta place. Alors pourquoi est-ce que tu ris?
Il
y a une question du groupe virtuel en hébreu. Est-ce que tu peux être en vie des amis sans leur créer de l'envie toi-même aussi? En fait, sans la jalousie, on ne peut arriver à rien. Pourquoi est-ce que ce serait mauvais d'envier quelqu'un? Mais non, c'est écrit qu'on doit envier juste que ça nous perturbe même jusqu'à notre sommeil. C'est écrit. Il y a une question aussi sur le premier degré. Est-ce que le premier degré que nous pouvons recevoir, est-ce qu'il vient d'une façon absente et que ça peut arriver à tout le monde et que ça peut arriver à n'importe quel moment dans leur vie? Oui, à tout le monde et à chaque instant, on dira oui, c'est vraiment la vérité. Ça peut arriver d'avoir une illumination qui peut arriver à une personne, qu'elle peut se révéler à lui d'une façon où soudainement elle ressent que qu'elle a une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser, qu'il y a comme un nouvel ordre et que toutes ces valeurs dans la réalité, tout ça, ça devient complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont différentes? Ça veut dire qu'ils voient que notre monde vraiment est fictif et qu'il n'existe que dans notre esprit imaginaire. Et ils voient cette réalité supérieure, la réalité spirituelle, comme quelque chose d'éternel. Et comme si il ne faisait qu'exister dans une partie fondamentale de la réalité et qu'il n'y a qu'à travers cette illumination qu'il peut y arriver. Nous parlons de l'olishma et de l'ishma. La question, c'est comment on arrive à un état où la dizaine m'enseigne comme il est écrit, l'âme d'un homme lui enseignera.
La dizaine ne peut pas t'enseigner, mais seulement te pousser et te fournir de l'envie. Et tout le reste, il ne faut que tu le reçois d'en haut, seulement d'en haut.
Et c'est possible que ce soit à travers eux, d'une certaine façon, d'une façon relative, mais tout vient d'en haut. D'accord. Et qu'y a-t-il avec toi? Voici.
Может быть, ребята привыкли к друг другу, там, как старые супруги, им трудно завидовать друг другу, видеть друг другу величие.
Peut-être que les amis se sont habitués l'un à l'autre comme des couples qui vivent ensemble, alors c'est difficile d'avoir la grandeur de l'autre. Et Moscou, Kiev, Peter, ce sont des gens si justes que j'ai peur même de les regarder. Regardez à quel point ce sont des héros, Krasnoyarsk, et ils suivent les avis du Rav 5 heures avant que le Rav les donne. Alors, il faudrait vraiment être jaloux d'eux et voir qu'il y a beaucoup à envier d'eux. Mais sérieusement, comment pouvons-nous aider et comment est-ce que nous pouvons avancer dans ce processus?
Ah, tu parles de comment
s'élever au-dessus de ce marais ou... Je vois qu'il y a comme des grenouilles dans ce marais pendant des années et oui, c'est vrai, et qu'il y a aussi oui, un marais au-dessus duquel il faut s'élever, oui. Nous passons maintenant à l'extrait numéro 21. Quel est le sens de la souffrance dans le travail? Nous devrions nous rappeler que le travail de l'homme, dans le but de l'Ehashpia, lorsqu'il veut la Dvikut avec le Créateur, est l'endroit où l'on commence un processus d'ascension et de descente, c'est-à-dire quand il concentre tout ce qu'il fait dans le travail sur la réception d'une récompense en retour, alors quand il croit en la récompense et la punition, son désir inhérent de recevoir ne s'oppose pas à recevoir de plus grands plaisirs. Cependant, quand il veut aller sur le chemin de ne pas recevoir de récompense, puisque c'est contre la nature, la vraie guerre avec le mauvais penchant commence, puisque l'homme veut enlever le mauvais penchant du monde, car seulement ici il existe. Et en ce qui concerne le nom du désir de recevoir, le mauvais penchant, c'est parce qu'il nous dépeint le chemin que le peuple d'Israël veut suivre comme mauvais. C'est-à-dire qu'il soutient que le désir de l'homme d'annuler sa propre autorité et de s'annuler devant le Créateur est un suicide. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on appellerait bon? Ce serait si l'homme demandait au Créateur d'étendre son domaine et de satisfaire tous ses manques, et non pas qu'il devrait travailler pour le Créateur. En d'autres termes, le mauvais penchant demande à l'homme
« Où est ton intelligence? Pour quelle récompense tu travailles si dur dans la Torah et les mitzvot? »
C'est comme l'ont dit nos sages, la lumière en elle corrige l'homme. Cela signifie que puisque le mal ne peut pas s'annuler devant le Créateur, mais plutôt que le mal chez lui veut que l'homme existe, l'homme est avisé que s'il s'engage dans la Torah et les mitzvot, il sera ainsi récompensé, c'est-à-dire que sans la Torah et les mitzvot, il est impossible de recevoir une si grande récompense, et ce n'est que par la force de la Torah et des mitzvot que nous pouvons obtenir une telle récompense, que l'homme s'annulera devant le Créateur et son autorité ne sera pas apparente, et le Créateur prendra tout. À propos d'une telle récompense, le mauvais penchant crie « Mais tu perds ton existence même. Tu accomplis des actions qui mettront un terme à ton existence. Faut-il travailler et faire des efforts pour cela? » Il s'ensuit que le mauvais penchant lui dépeint de mauvaises images concernant l'ordre de son travail. C'est ce qu'on appelle la souffrance, c'est-à-dire quand l'homme veut marcher sur le chemin de la vérité et atteindre la dvikut avec le Créateur, appelée équivalence de forme, ses questions viennent à lui et il souffre d'une descente, ce qui signifie qu'il ne peut surmonter ses arguments. Cela se manifeste immédiatement dans l'esprit et dans le cœur. Quand l'homme se remet de la descente et commence à contempler la situation dans laquelle il se trouve, il souffre car il est loin du Créateur.
כשגומרים פסוק לא, לא, לא זוכרים מה היה באמצע אפילו, לא מקושקים בהתחלה.
Lorsque il termine de lire un verset, nous ne pouvons même pas nous ramener, nous rappeler ce qui a été dit au milieu du texte. Alors comment peux-tu avoir une telle question? Ne va pas poser une question de plus que 5 ou 6 phrases, non? Lorsque nous avons, c'est difficile de pouvoir faire un résumé de tout le processus en moins de quelques lignes, mais c'est le but de l'article. Faudrait-il le relire à plusieurs reprises? Oui, mais tu peux voir qu'il y a de plus petits extraits et de plus grands extraits. Alors, si nous arrivons avec la moitié du processus, ça ne va nulle part. Oui, mais tu dois comprendre que tout ça, ça n'est pas pour le bien de l'étude, dit Rav. Vas-y, relis-le à nouveau. Encore une fois, l'extrait 21. Nous devrions nous rappeler que le travail de l'homme dans le but de l'Ehashpia pour donner, lorsqu'il veut la dvikut avec le Créateur, est l'endroit où l'on commence un processus d'ascension et de descente, c'est-à-dire quand il concentre tout ce qu'il fait dans le travail sur la réception d'une récompense en retour, alors quand il croit en la récompense et la punition, son désir inhérent de recevoir ne s'oppose pas à recevoir de plus grands plaisirs. Cependant, quand il veut aller sur le chemin de ne pas recevoir de récompense, puisque c'est contre la nature, la vraie guerre avec le mauvais penchant commence, puisque l'homme veut enlever le mauvais penchant du monde, car seulement ici il existe. Et en ce qui concerne le nom du désir de recevoir, le mauvais penchant, c'est parce qu'il nous... Ici, dit Rav, nous avons cette coupure entre la religion et la Kabbale, parce que si tu vas déjà pour avoir un profit dans ce monde et le monde à venir, alors tu vas d'un côté, et si tu y vas afin de ne pas avoir une récompense et ne pas profiter en ce monde et le monde à venir, alors ça, c'est l'autre direction. Alors ici, la distinction est claire et devrait l'être. Et de travailler sur ce point, ça doit se faire pendant un certain temps, jusqu'à ce que la lumière fasse son œuvre et te détache d'une direction et t'amène dans la direction de l'Ishma. Et en ce qui concerne le nom du désir de recevoir, le mauvais penchant, c'est parce qu'il nous dépeint le chemin que le peuple d'Israël veut suivre comme mauvais. C'est-à-dire qu'il soutient que le désir de l'homme d'annuler sa propre autorité, de s'annuler devant le Créateur, est un suicide. Au lieu de cela, qu'est-ce qu'on appellerait bon? Ce serait si l'homme demandait au Créateur d'étendre son domaine et de satisfaire tous ses manques, et non pas qu'il devrait travailler pour le Créateur. En d'autres termes, le mauvais penchant demande à l'homme « Où est ton intelligence? Pour quelle récompense? Tu travailles si dur dans la Torah et les mitzvot? » C'est comme l'ont dit nos sages, la lumière en elle corrige l'homme. Cela signifie que puisque le mal ne veut pas s'annuler devant le Créateur, mais plutôt que le mal chez l'homme veut que l'homme existe, l'homme est avisé que s'il s'engage dans la Torah et les mitzvot, il sera ainsi récompensé. C'est-à-dire que sans Torah et les mitzvot, il est impossible de recevoir une si grande récompense, et ce n'est que par la force de la Torah et des mitzvot que nous pouvons obtenir une telle récompense, que l'homme s'annulera devant le Créateur et son autorité ne sera pas apparente, et le Créateur prendra tout. À propos d'une telle récompense, le mauvais penchant crie, « Mais tu perds ton existence même. Tu accomplis des actions qui mettront un terme à ton existence. Faut-il travailler et faire des efforts pour cela? » Il s'ensuit que le mauvais penchant lui dépeint de mauvaises images concernant l'ordre de son travail. C'est ce qu'on appelle la souffrance, c'est-à-dire quand l'homme veut marcher sur le chemin de la vérité et atteindre la dvekut avec le Créateur, appelé équivalence de forme, ces questions viennent à lui et il souffre d'une descente, ce qui signifie qu'il ne peut surmonter ses arguments. Cela se manifeste immédiatement dans l'esprit et dans le cœur. Quand l'homme se remet de la descente et commence à contempler la situation dans laquelle il se trouve, il souffre car il est loin du Créateur.
אז הוא סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם.
שאלות.
Des questions, demande Rav.
אז כשהוא שואל איפה השכל שלך, אין לו בעצם, אין לו תשובה.
Alors, lorsque tu demandes où est l'intelligence, c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. Il ne veut que la lumière qui fasse son œuvre sur lui. Non, ça n'entre pas dans l'esprit, dit Rav, parce qu'il ne comprend pas plus que ce que nous avons à travers nos cinq sens. Il ne comprend pas plus de la réalité que ce que ce corps peut lui dépeindre, et que tout est un monde faux et imaginaire. Et là, il comprend et il clarifie qu'il n'atteint rien de plus que cela. Et rien au-dessus de cela, parce que c'est un programme qui ne contrôle déjà plus. Et ce sont des données différentes, là. Ce n'est pas dans le désir de recevoir, c'est dans le désir de donner. Et le désir de donner n'existe même pas dans notre monde. Et nous passons à un programme complètement différent. Et à partir de là, nous ne pouvons comprendre l'autre programme. Ça n'existe pas. Il ne fonctionne pas. Alors, ma question, alors, c'est qu'alors, il voit qu'il passe par une descente ou parce qu'il n'a pas de réponse? Quand une personne sait qu'elle a déjà entré dans... Disons qu'il n'a pas de réponse à cette question dans son esprit. Est-ce que c'est un signe qu'il va dans une descente? Oui, il est en train d'entrer vers la transition, dit Rav. Quelqu'un d'autre ici, Shapiro? Alors, quelle est la différence entre la pensée et l'esprit? Tu dis que l'univers est une pensée. Alors, quelle est la différence entre une pensée et l'esprit? L'esprit, c'est comme le logiciel et la pensée. Non, désolé. La pensée, c'est le logiciel et l'esprit, c'est comme le hardware. Je ne sais pas ce que tu veux dire de par là, dit Rav.
אני יכול לדמיין, או לדמיין, לתאר את עצמי, את התמונה שאנחנו חלקים של, של גוף אחד.
Je peux imaginer une image où nous faisons partie d'un corps, nous servons le corps, et même si le Créateur est entre nous, dans un amour absolu, qu'est-ce que ça veut dire de donner du contentement au Créateur? Je dois être dans cette, avec cette intention, dans cette image. Je ne sais pas, dit Rav, ce que ça veut dire, le Créateur, et qu'est-ce que ça veut dire de lui donner du contentement. Ça, je ne le sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, disons des mots vides. Mais alors, qu'est-ce que la différence entre les différentes méthodes? Comment y arriver? Comment l'atteindre? Mais tu sais, mais oui, c'est à travers les amis. Oui, c'est à partir de l'amour des autres, à l'amour du Créateur, dit Rav. Pourquoi est-ce que c'est fait de cette façon? Bien sûr que c'est exprès, pour que tu sois capable d'atteindre le Créateur et déjà muni de l'intention de donner. Est-ce que je peux poser une autre question? Alors que tu as compris? Non. Non, parce que... Alors, je peux voir, suivant ton regard, tu me regardes comme ça. Et... Oui, mais quelle est la différence entre tous les enseignements? C'est comme s'il y a des différences entre différentes intentions. Ou... Je vais te donner la différence, c'est grave. Et même si ça, tu ne le comprendras pas non plus. La différence, c'est... dans la réalité. La réalité, tout comme dans notre réalité, qu'il semble qu'il y a pour l'instant comme des pierres, du métal, et que tout est solide, et que tout a à voir avec le poids de ses propres matières, mais soudainement, tu entres dans la matière spirituelle, et là, tu comprends que tout le reste, ce n'était qu'une pensée, en fait, et la réalité que tu atteins, ça aussi, ce n'est qu'en pensée, cette nouvelle réalité. Alors, la correction n'est que dans la pensée, alors pourquoi il nous faut ajouter les uns devant les autres, alors? Pour avoir de la force, dit Rav, de transformer cette réalité extérieure. Et il est écrit à ce sujet, vas-y et lisez, mais vas-y, pose ta question. Mais travailler comme dans le Zohar, par exemple, comme lorsque nous lisons le Zohar, ou c'est comme il faut penser à l'intention et c'est tout? Oui, tu es là tous les soirs à la leçon du Zohar et tu me demandes maintenant pourquoi tu le fais et comment le faire. Nous le disons avant le début de chaque leçon. Mais ce n'est pas clair comment ce que je dois prier pour l'ami ou... Là, tu demandes à propos du Zohar ou du fait que nous devons jouer le jeu. Je demande, si, par exemple, si ce monde est imaginaire et qu'il n'existe pas, alors pourquoi est-ce qu'il nous faut jouer la comédie extérieurement? Ou je lui demande sérieusement. Qu'est-ce que ça veut dire extérieurement, dit Rav? Tout comme ce monde est faux, alors tu joues aussi faussement et tu t'imagines que cette réalité est fausse aussi. Alors tu es dans ce processus, ce programme, et tu en as besoin pour jouer avec et pour bouger vers le prochain programme qui s'appelle la fin de donner, qui s'appelle l'Ishma. Et ça, c'est le nom du programme. Ah, tu es arrivé, alors vas-y. En hébreu. Ah, merci beaucoup, Rav. Alors, y a-t-il une option ou non, il n'y en a pas, dit Rav.
Il
Y a-t-il une option de ne pas souffrir jusqu'à ce qu'on découvre que... Non, je te le dis, il n'y en a pas. Jusqu'à ce que tu dises c'est suffisant, alors je serai d'accord. Alors comment est-ce que j'en viens à être d'accord? Mais c'est quand il y a souffrance. Mais là, ça, je sais comment y arriver. Non, tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, dit Rav. Mais c'est la seule chose que je sache. Non, pour souffrir, tu dois aussi avoir cet esprit, cette raison, pour que avec cette souffrance que, à travers laquelle tu passes, tu dois comprendre à travers ta compréhension que tu deviens la bonne décision. Et ça, c'est déjà très intelligent et très expérimenté, et sage comme un expérimenté. Une question générale. Lorsque les kabbalistes disent « Tu as besoin d'être d'une certaine façon, mais tu n'es pas cette façon. Alors comment, qu'est-ce que tu devrais en obtenir alors? Il te faut travailler afin de donner, oui, dit Rav. Mais tu n'es pas construit de cette façon, tu fais tout pour recevoir. Alors, tu vois qu'il y a une façon de passer d'une place à l'autre. OK, mais alors... Mais qu'est-ce qu'ils me disent de faire maintenant pour le moment présent avant que j'ai une atteinte? Oui, mais qu'est-ce qu'ils nous disent de faire alors? C'est d'être dans le groupe, la société, de faire tous ces exercices, de s'asseoir avec les amis, d'étudier tout ce qu'ils étudiaient aussi et d'investir là-dedans. Et là, à partir de ces actions, à partir du, il nous faut faire deux choses. Agir dans le groupe et étudier à partir des sources authentiques. Et à partir de là, la lumière va venir et va te prendre jusqu'au prochain degré de la réalité. Mais ils ne disent pas simplement qu'en étant derrière, on fait quelque chose. Il faut aussi demander qu'on fait quelque chose tandis qu'on est ici, non? Et bien sûr, dit Rav, bien sûr qu'il faut que tu le fasses. Alors, il demande quelque chose à partir du cœur, ou du cœur, non? Oui, oui, mais est-ce que ça devrait être que, alors que du bavardage, ou selon ton besoin de parler, d'écouter? Oui, oui, tout est un mensonge, dit Rav. Et à quel point c'est bon de s'engager dans l'amour des amis, et dans ton cœur, tu ressens que tu ne donnes pas et que tu ne t'en soucies pas, et c'est pour ça que c'est ce que ton cœur ressent, et ça, tu dis, tout est expliqué. Mais pourquoi il nous explique alors que peut-être un peu que parce que nous savons que les gens religieux, eux, ils apprennent tout à propos de la vie corporelle et suivant leurs lois. Mais pourquoi est-ce que là on nous dit que un peu que dans la façon corporelle, au niveau matériel, il faut construire notre vie afin d'être sur le chemin de la bonne façon? Et alors, il ne nous aide pas en ce sens, corporellement, dit Rav. Oui, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant, la corporalité. Oui, tu veux dire d'avoir une profession, une famille, etc. Monsieur, c'est lorsque tu vas à l'université pour étudier, où as-tu étudié? Au Maryland, aux États-Unis. Et qu'y a-t-il au Maryland? Il y a une université. Alors, c'était l'université. Et qu'y as-tu fait? Mais j'ai appris le journalisme. Ah, tu es journaliste? Je ne suis pas un journaliste, mais j'ai appris le journalisme. Ah, OK, on peut le voir, oui. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est Dieu nous aidera. Alors là, on t'a dit, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut apprendre à se connecter, voir qu'il y a aussi un système de santé, et qu'il y a aussi du divertissement, et il faut que tu fasses du sport et tout ça. Non, pas vraiment, dit Aaron. Alors, on ne t'a rien dit nulle part, on ne t'a rien enseigné. Alors ici, tu vois que tu n'as qu'une profession, c'est d'étudier la sagesse de la Kabbalah. Tu veux bâtir une famille, ou est-ce que tu apprends ça? Personne ne le sait, comment bâtir une famille, mais tu n'y arrives et que tu y vas et tu la bâtis, ta famille. Mais est-ce que c'est vrai que afin d'être ici physiquement tous les jours, il te faut mettre un peu d'ordre dans ta vie et pour y arriver. À ça, nous ne nous engageons pas là-dedans. Je sais, mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas être ici. Alors, je vais te dire maintenant au revoir et vas-y, va organiser ta vie, reviens quand tu auras 40 ans et nous reprendrons l'étude. Non, mais je ne le veux vraiment pas. Tu ne le veux pas, alors il n'y a rien à faire. C'est pour ça que le Rabash disait qu'il n'acceptait personne pour étudier, qu'il n'était pas marié et là, il disait que si tu as une famille, alors OK, tu peux venir, tu as des enfants qui s'en viennent aussi. Alors, tu peux commencer. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entendre de telles choses que je vais te montrer quoi faire dans la vie, te l'enseigner. Non, non. Non, non, je sais, mais non, c'est suffisant, dit Rav. Est-ce que je peux poser une autre question? Non, non, pour aujourd'hui, c'est suffisant pour un autre mois, dit Rav. Oui, Alexei de Moscou demande, comment marcher sur le chemin sans récompense si nous disons que l'homme n'a à voir qu'avec le plaisir? Une personne ressent qu'en lishma, c'est la plus grande récompense possible, qu'il n'y a pas de plus grande récompense que de donner au Créateur. Et sans vouloir recevoir une récompense en retour. Et je vous le dis, c'est une lumière qui vient d'en haut et qui amène une telle pensée et un tel désir. Et tout comme maintenant, tu peux avec toute ta force, mais tu en seras incapable de faire une seule chose si tu n'obtiens pas la récompense parce que la machine ne fonctionnera pas. Elle a besoin de carburant. Et le carburant, c'est sa récompense. Et c'est son grand d'énergie. Il faut que tu atteignes, tu obtiennes cela. Et lorsque la lumière qui corrige vient, alors c'est tout, parce que c'est opposé à cette logique. Et alors maintenant, tu veux tout faire, mais à Dieu ne plaise, sans recevoir aucune récompense. Et parce que sinon, c'est la mort. C'est comme la morsure du serpent. Et c'est comme ça que les choses sont. Et ça, on peut le voir. Oui, on peut le voir. Alors, c'est la question de la lumière qui influence ou qui n'influence pas. Et c'est ça la différence. Alors, lorsque nous apprenons le Zohar et que nous faisons des choses, tu dis que la lumière fait le travail, et c'est ce dont tu parles en ce moment. Oui, lorsque nous apprenons le Zohar, il nous faut nous connecter entre nous. Pourquoi? Parce que la lumière qui corrige ne fonctionne qu'avec une dizaine. Elle ne travaille que sur la dizaine, parce que la dizaine, c'est une structure de la vaya, et la lumière ne fait que travailler sur la vaya. Parce que lorsqu'elle passe à travers nous, elle passe à travers cette avaya. Et ce schéma, ce moule d'avaya, et ça, et nous devons être comme ça aussi, et voir que la lumière viendra et travaillera sur nous. Alors ce processus dont tu as parlé, c'est que la lumière va nous donner ce sentiment de vouloir travailler sans récompense. Oui, moi-même je ne fais rien, c'est tout d'un coup je ressens que c'est comme ça que les choses sont, et toi tu es comme ébahi parce que le Créateur, tu ne lui pensais pas vraiment, ou peut-être à moitié. Et là, on voit que non, là, tu vois maintenant que ça n'était même pas ton champ de vision. Et là, soudainement, nous voyons que ce terme, ces phrases deviennent plus importants que toute autre chose. Dans une telle mesure que nous ne voulons rien, alors dites-moi comment faire quelque chose qui va lui apporter du bien, et qui ne me connaîtra même pas et parce que je ne veux rien recevoir en retour. Ça, c'est considérer que je lui fais le bien. Alors, je demande ce ressenti que tu le recherches comme un grand trésor, c'est une grande occasion. Alors, pourquoi la lumière viendra et t'influencera? Ça, c'est une merveille, mais c'est comme ça que les choses sont. Mais C'est une récompense de tous tes efforts, en fait. Mais à partir de ce point et plus avant, tu commences à développer la véritable réalité. Comment tout se met en place et se met à travailler de la bonne façon et que tout est gouverné. Ça, c'est, il faut voir que c'est le plaisir qu'on attend, que les justes sont assis et là, ils reçoivent l'illumination de la divinité. Oui, une question du groupe virtuel. Comment est-ce que il y a plusieurs définitions ici de ce qu'est un ami et ce qu'est un étudiant, et, mais il n'y a pas d'envie, l'envie, ou est-ce que nous pouvons vérifier l'assiduité, la participation au cours, par exemple? Non, il n'y a rien de tel, dit Rav. L'envie est telle tant que l'ego existe et que nous existons, et c'est tout. S'il n'y a pas d'envie, alors ça veut dire que ton ego a été corrigé, et c'est la seule façon. Aussi, au-dessus de la barrière aussi, il y a une envie, il y a l'envie de... Ça, nous savons que ensuite elle est bloquée de ses amis de Tzimtzoum Alef. Alors, mais de quoi est-ce que nous aurions envie? Qu'il est un étudiant, que je ne suis pas vraiment un étudiant, qu'il diffuse et que je ne diffuse pas, etc. Non, c'est comme de voir que ce que je vois, c'est un défaut dans mon ego. C'est mon ego qui souffre. Tu comprends, il n'y a pas de plus grand regret pour une personne que la honte. Pourquoi Tzimtzoum Alef? C'est en raison de la honte et c'est tout. Une personne est prête à mourir et ça pourrait qu'elle soit amenée à un état de mort, mais simplement pour ne pas avoir honte si elle ne ressent aucune justification d'être humilié devant tout le monde. Alors, il faut trouver une justification pour cela, et alors, et il va mourir, et aucun problème, il va mourir. Alors, tu dis que tout ce mécanisme, si je diffuse et qu'il est jaloux de moi, alors ce n'est pas qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. Non, c'est le fait que il fait plus que toi, ou non, c'est, il faut voir que il n'y a pas lieu de s'en réjouir, mais l'humiliation dans les yeux de l'ami, si tu t'humilies devant eux, c'est une chose. Mais si tu humilies eux, tu humilies, alors là, c'est quelque chose d'autre. Mais en quoi est-ce qu'ils pourraient m'humilier? Ils disent que, en comparaison à la dizaine, par exemple, il y a, par exemple, quelqu'un qui vient à toi et là, tu... Disons que quelqu'un vient vers toi, puis il dit, j'ai entendu de la part de ta dizaine que ils ne savent pas comment se débarrasser de toi. Ah, tu vois? Et alors, je pourrais dire que je le croirais sur le champ. Oui, ça fonctionne comme ça. Alors, allons-y, les gars, continuons, parce que là, nous perdons vraiment du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Rav, il y a plusieurs questions ici sur le sujet, et je vais les passer en revue, et tu me dis, y a-t-il une différence entre la sensation d'être l'envie spirituelle et l'envie corporelle? Qu'est-ce que l'envie spirituelle et comment est-ce que je peux l'annuler? Nous n'avons pas d'envie, il n'y a pas corporel et de spirituel, il n'y a que l'envie dans la dizaine, et ça, c'est le plus important. Est-ce que c'est vrai que sur le chemin spirituel, il y a un état où on demande de faire de grands efforts pour voir qui est apporté un manque, et est-ce que ça, c'est un état avancé, qui est plus avancé que lorsque nous... Il n'y a pas, dit Rav, il n'y a pas de problème dans la spiritualité pour former quelque chose, de créer quelque chose, mais le fait est que pour réaliser, pour l'exprimer, alors là, pour le rendre plus subtil, pour le scruter, en fait, le scruter davantage. Mais le plus important, c'est la constance. Lorsque tu passes à travers l'Ishma, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la réalité, ou est-ce que les kabbalistes voient la même image extérieure, ou cette même image extérieure dira, c'est tout ce qu'il voit, mais il y a deux niveaux, il y a ceci puis cela, mais c'est très clair comment tout se met en place. Nous avons appris à ce sujet la connexion entre les deux niveaux. En fait, on ne peut pas l'expliquer. Durant l'étude, lorsqu'une personne veut atteindre ce qui est écrit, il y a des amis qui soudainement se mettent à sentir qu'ils sont fatigués, qu'ils sont rejetés de l'étude. Alors, est-ce qu'on peut dire que pendant l'apprentissage, le mauvais penchant se révèle aussi? Pendant l'étude, bien sûr qu'il se révèle, ou ailleurs pourrait-il se révéler, bien sûr. Quelle question est-ce que je devrais poser pour déterminer dans quelle mesure est-ce que je participe à la dizaine? Et comment est-ce que je pourrais te soutenir, dit Rav? Quelle est la question que je peux poser pour déterminer dans quelle mesure est-ce que je participe à la dizaine? Et qu'est-ce que j'ai répondu, donc? De quelle façon est-ce que je peux te soutenir? Voilà. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de jouer ces jeux entre nous si nous sommes au niveau de la pensée et peut-être passer 2 ou 3 heures par jour à lire le Zohar et puis étudier et attirer la lumière à nous? Oui, alors là, tu verras que tu recevras une toute nouvelle Torah si tu persistes. Et il y a ce que les kabbalistes ont écrit pour nous, il y a la façon dont nous avons appris avec le rabbache, et il n'y a rien de plus. Tu veux d'autres méthodes, d'autres styles, vas-y, mais moi, je vous donne ce que j'ai reçu et la façon dont je le comprends. Je ne sais pas exactement ce qu'il m'a donné, mais c'est comme ça que je l'ai reçu et que je l'ai compris, et c'est ça que j'essaie de vous transmettre. D'accord, oui, vas-y, Vlad. Oui, nous avons écrit à plusieurs, il a écrit dans Shamati à plusieurs reprises que pour atteindre la Dvekut, il faut en arriver aussi à révéler la haine auparavant. Et alors, si nous n'avons pas la haine qui nous sépare, oui, c'est comme ça que les deux nous amènent la lumière. Lequel en premier? Ah, oublie à ce sujet, dira. Nous ne parlons pas de la haine. Non, le fait que nous en venons à la haine et à la séparation, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas de travailler sur la haine et sur la séparation, non. Nous ne travaillons jamais d'une façon négative. Est-ce que c'est clair? Mais comment est-ce que nous travaillons ensemble? Ça, ce n'est pas mes affaires. C'est la lumière. C'est la lumière qui travaille comme, et là, t'amène à être un âne, comme, sous son bas et le bœuf à sa charge.